Chapitre 27e. Le patriarche Théophile fit son entrée à Constantinople avec un faste extraordinaire, entouré de 28 évêques égyptiens et d'une suite nombreuse de clercs et de domestiques. Sévérian, l'évêque de Gabala, le prédicateur à la mode, le favori des dames de la cour, et trois autres évêques de l'Asie mineure s'étaient joints à lui. Les matelots d'Alexandrie, dont les navires avaient amené du blé à Constantinople, le reçurent au port avec des démonstrations de joie bruyante. Ils lui firent la conduite et ajoutèrent à l'éclat de son entrée l'apparence de la popularité. Mais le peuple s'étonna de ce luxe, de cette pompe mondaine autour d'un patriarche. Il en avait perdu l'habitude avec Chrysostome. Chrysostome avait offert l'hospitalité à tous les évêques qui devaient assister au concile. Le palais patriarchal et les annexes de Sainte-Sophie et des apôtres avaient été disposés pour les recevoir. Mais le nombre parti de ses adversaires refusa son offre. Eugraphia avait mis à la disposition du patriarche Théophile la magnifique et vaste villa qu'elle possédait sur le Bosphore. C'est là qu'il s'installa avec ses partisans. Il repoussa tout rapport avec Chrysostome. Sa première visite fut pour leur majesté impériale, sa seconde pour Eugraphia. Sa position était ainsi clairement dessinée. Le bon et simple Arcadius, qui souffrait des dissensions de l'Église, reçut Théophile amicalement. « J'espère, lui dit-il, que les petits nuages qui se sont élevés entre votre sainteté et les moines égyptiens se dissiperont facilement. Je regarde comme un signe de bon augure que notre vénérable père Chrysostome ne veuille pas paraître comme juge dans cette enquête. Les lois de l'Église, dit-il, établissent qu'un évêque ne doit être jugé que dans sa province. L'affaire sera donc portée devant un tribunal civil, sans que la justice souffre de ce déplacement. « Sire, dit Théophile avec un froid orgueil, vous voyez par mon arrivée que je ne crains aucun tribunal ni civil ni ecclésiastique, ni dans ma province, ni dans une province étrangère. S'il s'agit de juger la conduite d'un métropolitain, et que l'instruction ne puisse se faire que dans la résidence impériale, en dehors de sa province ecclésiastique, il me semble en ce cas que les canons doivent fléchir. C'est très noble à vous, vénérable père, de penser ainsi, dit l'empereur que ce ton élevé rendait embarrassé, car vous auriez pu vous appuyer sur les canons pour ne pas paraître ici. Et c'est avec autant de noblesse que notre vénérable Chrysostome invoque les canons dans cette circonstance. Avec de telles dispositions, l'accord entre vous et vos moines ne peut être difficile à rétablir. Et j'espère que le concile, qui a été provoqué par le mécontentement de quelques évêques contre notre patriarche, conservera le même esprit de bienveillance et de conciliation. Certainement, pourvu que les coupables et les innocents sont distingués et reconnus, répondit Théophile toujours avec cette hauteur qui intimidait Arcadius. Auprès de l'impératrice, au contraire, il était l'humilité même. Il ne pouvait trouver assez d'expressions pour se placer sous sa protection et pour compter sur sa bienveillance. L'ombre de son trône était son refuge contre ses ennemis. Sa pourpre impériale était l'égide de l'Église. Elle était appelée à donner de ses mains pures et délicates la mesure qui convenait aux évêques dans l'exercice de leur charge. Avec son esprit et son caractère, elle était faite pour être la souveraine absolue du monde, le point de centre de l'univers. Cela ne ressemblait guère aux sévères remontrances de Chrysostome. Ensuite, ce fut le tour de l'évêque Sévérian. Il ne pouvait prêcher parce qu'il ne pouvait convenablement monter en chaire à Constantinople sans l'agrément du patriarche. Il s'en dédommagea en tenant à l'impératrice les propos les plus agréables et les plus édifiants. Il loua les vertus pour lesquelles Eudoxia avait un penchant, une inclination naturelle, et il garda le silence sur le reste. Sa tendresse maternelle, sa bienfaisance, son zèle, pour la foi et pour l'Église, lui fournirent un thème inépuisable sur lequel il broda les variations les plus charmantes. Versé comme il l'était dans l'Écriture sainte, il l'interprétait avec une grande facilité. Il en faisait le fond, la trame de son discours, et avec une adresse rare, il y entremêlait ses appréciations, ses éloges, son admiration personnelle, qu'elle est tantôt directement, tantôt indirectement à leur adresse. Eudoxia fut enchantée de cet esprit délicat et finement cultivé. Les dames de son conseil intime le furent plus encore. et cette admiration fut partagée avec exagération par tout ce qui les entourait et les approchait. Personne ne devait avoir le malheur de n'être pas ravi au suprême degré. Toute la cour fut prise d'enthousiasme pour Sévérien, et l'empereur Arcadius se laissa aller au courant. « Quelle comédie !» dit un jour Graffia à Florus, qui avançait de plus en plus dans sa confiance. « Je n'y donnerai jamais les mains, si ce n'était faire une sorte de démonstration contre Bouche d'or, que d'admirer outre mesure cette bouche emmiellée. J'admire, noble dame, l'art avec lequel vous savez placer les pensées sérieuses au milieu des faits superficiels. » Florus jouait auprès de Graffia le rôle que Sévérien prenait auprès de l'impératrice. « Mais quand donc le moine Isaac reviendra-t-il d'Antioche ? » dit-elle d'un air impatient. « Les sources doivent couler avec une abondance merveilleuse, ou être bien à sec pour le retenir si longtemps. » « Je dois vous dire, madame, qu'Isaac est revenu depuis longtemps, mais sans résultat. » « Alors il y a mis de la maladresse, ou du mauvais vouloir, » fit Graffia avec irritation. « Pardonnez-moi, madame, il n'y a pas à douter de sa bonne volonté. Il est né espion. » C'est la matière qui lui a fait défaut. Dans un endroit où Chrysostome a vécu 50 ans, ne pouvoir trouver une tâche à sa conduite, à son caractère, avec de la bonne volonté, cela se comprend. Florus, c'est ce que je ne croirais jamais. Florus secoua les épaules en silence. Quoi ? Continua-t-elle. Il aurait fait ses études sans légèreté. Il aurait été officier de justice sans être accessible à la corruption. Il aurait été prêtre sans ambition, sans esprit de domination, sans aucun des caractères qui le rendent insupportable comme patriarche. Que dis-je, qui le font haïr ? Dites-moi, cela est-il possible ? Il l'a rendu possible, madame. Son souvenir est vénéré et béni à Antioche, autant que l'ont été ses actes et sa vie pendant son séjour dans cette ville. Triste mais frappant exemple de la faiblesse humaine. Dans une condition inférieure, il visait à l'idéal de la perfection. Arrivé au sommet de l'échelle, il n'a pu supporter l'éclat de cette nouvelle position, et la perfection s'évanouit chaque jour de plus en plus. Nouvel Icare, dont les ailes de cire se fondent à l'approche du soleil. C'est très poétiquement dit, mon bon Florus, mais c'est très désespérant pour nous, répondit Graffia avec humeur. Eh bien, il faut que nous nous tournions d'un autre côté. Le vénérable Théophile conduit son affaire en maître. Oui, fit Florus avec transport. Toute la ville était prise de lui, tout le monde est ébloui, depuis le préfet du palais jusqu'au portefeuille du port. Jamais personne n'a su, en si peu de temps et si rapidement, se faire un parti aussi considérable. Les festins qu'il donne enchantent les gens de distinction. L'or qu'il répand à pleine main pour le moindre service, et même gratuitement, enchante le peuple. Partout, il sait dire le mot qui convient. Ici, une flatterie, là, une louange, ailleurs, une promesse. Je voudrais que vous puissiez le voir en public, madame. Vous seriez émerveillée de la façon dont cet homme comprend l'art de gouverner les hommes. S'il emploie habilement la flatterie et l'or, je ne m'étonne pas de son succès, dit Graffia froidement. Ce sont les leviers avec lesquels on fait sortir le monde de ses gonds. Vous oubliez le troisième levier, dit Florus d'une voix caressante. Et c'est maintenant le plus rare, madame, je veux dire la haute prudence, le génie du commandement. Comme l'impératrice le possède, fit-elle en l'interrompant. Mais son sourire bienveillant montre combien il est accessible au premier de ses leviers. Avez-vous vu Eugénius ? Ajouta-t-elle. Il est dans un état tout à fait incompréhensible. Au lieu de se réjouir que son trait de folie ne soit pas connu, il est furieux. Et dans un moment important comme celui-ci, il est incapable de rendre aucun service pour les grandes choses qui s'agitent. La grave maladie de la noble Gunille lui était au cœur. Mais ce qui l'a le plus affecté, c'est une nouvelle que je ne garantis nullement. Quelle nouvelle ? On dit dans son entourage, et parmi les femmes qui la servent, qu'elle a l'intention d'embrasser le catholicisme. Cancan d'antichambre, mon bon Florus. Vous savez avec quelle tendresse j'aime Eugénius. Mais de croire que cette rencontre avec lui ait produit sur Gunille d'une impression favorable à l'Église, cela me surpasse. Elle aura parlé dans l'agitation de la fièvre. Et les femmes de chambre se sont empressées servilement de colporter cette nouvelle qui fait plaisir à l'impératrice. Gunilde, au contraire, n'en éprouvera qu'une plus grande répugnance pour la religion. C'est probable. Mais ces propos d'antichambre ont au moins pour effet de jeter Eugénius dans un vif désespoir. il s'était accroché fortement à l'idée d'embrasser l'arianisme pour rendre possible son mariage avec la noble Gunhild. « Il faut prier avec ardeur, » Dieu graffia d'un ton plein d'onction, « pour que le Saint-Esprit éclaire Gunhild et l'amène à la foi. Je le désire non seulement pour le salut de son âme, mais aussi afin que mon pauvre génius revienne à la raison, car la conversion de Gunhild lui ôterait tout espoir. » L'enquête ouverte contre le patriarche Théophile prouva, malgré toutes ses manœuvres, l'innocence des moines égyptiens accusés d'hérésie et de désobéissance à l'autorité spirituelle. L'impératrice, qui éprouvait pour ses pieux solitaires un sincère intérêt, fut très heureuse de voir leur innocence proclamée, et Théophile, tout disposé à se réconcilier avec eux et à leur permettre de rentrer en Égypte. Aussi Théophile fut-il dès ce moment justifié à ses yeux de toutes les autres accusations dirigées contre lui. Il sortit triomphant de l'enquête, parce que personne n'osa être mécontent de l'homme dont l'impératrice était contente. Chrysostome se réjouit de voir la paix rétablie entre le patriarche et les moines. D'ailleurs, il s'inquiétait fort peu de la suite de l'enquête. Sa vie, sa ligne de conduite, ses actes, son but, mettaient entre lui et Théophile la distance qui sépare le ciel de la terre. Les deux patriarches étaient à Constantinople comme deux planètes distinctes, dont l'une gravitait autour du soleil de la cour et l'autre autour du soleil de la vie éternelle. Le moine Isaac n'ayant pas été en état de trouver Antioche un seul témoignage sérieux contre Chrysostome, Théophile en conclut qu'il ne fallait pas être difficile dans le choix des griefs. Il prit donc ce qui se présenta, de quelque main que ce fût. Dans le clergé, il y eut plus d'un Judas. L'acte d'accusation fut discuté chez Eugraphia, en présence de Marsa, appelé à donner son avis. Dans des circonstances aussi sérieuses, il faut agir très prudemment, dit Théophile à Graphia, avec un air de grande dignité. Comme vous connaissez le terrain de Constantinople mieux que moi et mes collègues, votre opinion doit, sous un certain rapport, nous servir de règle, ainsi que celle de votre amie, la noble Marsa. Me conformant à votre manière de voir, vénérable père, dit Graphia, je suis arrivé à reconnaître que l'accusation reposant sur des fautes de conduite paraîtrait presque dérisoire. Sa jeunesse est pure de toute tâche de ce genre, comme le prouvent les recherches faites à Antioche. Ici, il vit depuis 7 ans avec une santé délabrée, dans une rigueur qui devrait faire de lui un saint. Si elle n'avait donné à son caractère cette amertume, cette dureté, cette raideur, qui font de lui un fléau de l'humanité, tous les griefs qui reposent sur sa violence froide, impitoyable, restent debout dans toute leur force. Théophile fit quelques remarques au papier qu'il avait en main. L'accusation de violation des canons est parfaitement fondée, dit-il. Sur ce point, tous les évêques, mes confrères, sont d'accord avec moi. Il a suspendu des évêques pour lesquels le crime de Simonie n'était pas prouvé, car il le nie. Mais, noble dame, que pensez-vous du chef de haute trahison? Y croit-on généralement? Peut-on considérer cette expression à l'égard de l'impératrice comme un acte de haute trahison? Est-il certain, d'ailleurs, ou est-il seulement vraisemblable qu'il s'en soit rendu coupable? Il s'en est rendu coupable, cela est certain, vénérable père, fit Eugraphia. Le jeune prêtre Florus, que mon ami Marsa a fait élever, et auquel je m'intéresse beaucoup à cause de ses grandes aptitudes. Ne croyez pas, madame, dit amicalement Théophile, que j'ai oublié ce jeune homme distingué qui est venu 2 fois déjà à Alexandrie. Mais continuez. Eh bien, Florus, sur le compte duquel vous vous exprimez avec tant de bienveillance, est une victime de cet esprit de persécution dont est animé le patriarche, qui le reproche impitoyablement quelques peccadilles de jeunesse au lieu de les couvrir du manteau de la charité. Mes filles, dit Théophile avec un air important, la dignité de l'état ecclésiastique demande une vie pure et sainte. Sans cette condition, la vocation est douteuse, et l'impression produite sur le peuple est mauvaise, car il apprend à mépriser le prêtre, comme libertin ou comme hypocrite. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est encore pour sanctifier le peuple que nous sommes prêtres. Je crois que vous pensez tout à fait comme moi à cet égard. Et que vous avez voulu dire simplement que la théorie doit être établie très sévèrement et s'adoucir dans la pratique. Je vous en prie, continuez. Graphia s'inclina en signe d'assentiment. Ce Florus, reprit-elle, assiste très ponctuellement au sermon de Chrysostome. Florus a entendu le sermon qu'il a fait il y a peu de temps à Sainte-Sophie et dans lequel il a comparé l'impératrice à Jézabel. Puisque Florus l'a entendu, je ne veux pas en douter. Seulement, l'accusation de haute trahison ne me paraît pas suffisamment fondée. « Quoi, mon vénérable père ? » s'écria Eugraphia. « Insulter aussi indignement à la majesté impériale du haut de la chair et devant tout le peuple n'est pas un crime de haute trahison. » Tout le monde à Constantinople juge de cette façon, et l'impératrice ne serait pas peu étonnée d'apprendre que vous ne partagez pas cette manière de voir. « Je n'ai pas dit cela, » répondit Théophile en écrivant tranquillement une note. « Votre zèle est très consolant, ma fille. » « Les partisans de Chrysostome, » reprit Eugraphia avec plus de calme, « soutiennent, il est vrai, que ces sermons ont été défigurés, non seulement par de fausses interprétations, mais même par des additions mensongères. Mais dites-moi, je vous prie, mon vénérable père, à qui peut venir la folle idée de comparer notre noble, notre auguste impératrice, à Jézabel ? Il n'y a que la haine d'un fanatique qui puisse imaginer une chose semblable. Je m'en rapporte à Florus comme un témoin auriculaire. « Je crois, » dit Théophile avec un air de grande satisfaction, « que nous avons maintenant assez de documents entre les mains pour éloigner du siège patriarchal un homme qui ne fait point honneur à sa haute situation. Ce n'est qu'un cri général d'indignation contre lui. »« Vénérable père, » répondit Eugraphia d'un air pensif, « la cour, y compris leur majesté, aussi bien qu'une partie du peuple et du clergé, la partie que vous connaissez, est contre lui. Mais nous ne devons pas nous dissimuler que la grande majorité du clergé et la masse du peuple est pour lui. Je laisse à votre sainteté le soin de prendre les mesures les plus propres à assurer le succès de votre plan. Je vais immédiatement chez l'empereur et je lui proposerai de ne pas assembler le concile dans la capitale, dit Théophile. Ah, comme votre sainteté sait trouver ce qui convient, fit Eugraphia avec une vive satisfaction. Vous pensez donc, demanda-t-il, que je puis compter sur l'assentiment de l'impératrice en faisant cette proposition à l'empereur ? Très certainement, vénérable père. Seulement, je voudrais vous prier de ne pas hésiter. Ce qui existe aujourd'hui n'existera peut-être plus demain. L'auguste impératrice est jeune et vive, ses impressions sont très mobiles, ses idées changent au gré de ses impressions. Il y a quelques semaines, mon neveu Eugénius, le pauvre garçon, eut le malheur de faire un trait de jeunesse, qui à vrai dire n'était nullement convenable. Pour un aspirant à la dignité épiscopale, aussitôt l'impératrice fut tout hors d'elle-même de mécontentement. Elle loua la sévérité du patriarche contre le clergé trop léger et fut sur le point de se réconcilier avec lui. Par bonheur, s'il est permis de parler ainsi, dans l'intervalle vint le sermon sur Jézabel, et elle s'éloigna plus que jamais du patriarche. Elle est maintenant dans ses mêmes dispositions. Combien il est déplorable que l'homme, et surtout celui qui a le pouvoir, reste et agit sous l'influence des passions, dit Théophile avec beaucoup d'onction, et il se rendit chez l'empereur. Ce ne fut pas par Gunilde, car elle ne connaissait pas Eugénius, mais par Eugraphia que l'impératrice connut l'auteur de l'enlèvement. Eugraphia jugea à propos d'aller aussitôt se jeter aux pieds de Doxia et de la prier de n'ordonner aucune enquête parce que Eugénius avait évidemment agi sous l'influence d'une passion insensée, qui lui avait enlevé toute faculté de raisonner et de réfléchir. Gunilde joignit ses prières à celles d'Eugraphia, non par pitié pour Eugénius, mais parce qu'elle ne voulait pas que son nom fût mêlé à cet attentat. L'impératrice le comprit, et par égard pour Gunilde, elle pardonna à Eugénius. On ne parla plus de la chose. On se contenta de plaindre Gunilde, qui, disait-on, était tombée très malade à la suite de violentes commotions morales, intimement liées à sa conversion au catholicisme. Mais tout en pardonnant, l'impératrice s'inclinait à une sévérité salutaire, et elle fit un jour, sans occasion spéciale, l'éloge de Chrysostome, qui attachait à la bonne conduite du clergé une importance telle qu'aucune considération ne pouvait l'empêcher de punir ses écarts. Ce fut assez pour que ses adversaires missent aussitôt en circulation la comparaison avec Jézabel. L'impératrice avait une confiance aveugle en eux. Elle pleura de colère, mais elle ne songea pas à contrôler ce rapport en s'adressant à des personnes impartiales. Elle regarda le patriarche comme son ennemi personnel le plus implacable. L'empereur, qui ne voyait que par ses yeux, se sentit profondément offensé pour elle. et tout son entourage s'efforça d'exploiter son mécontentement passif pour le porter aux actes de vigueur et d'autorité. Amantius avait essayé d'éclairer l'impératrice, de lui expliquer que le patriarche avait employé une figure de l'Ancien Testament pour peindre la perversité d'une âme endurcie, chose qu'il avait faite 100 fois. Elle lui commanda de se taire, parce qu'il était un aveugle partisan de Chrysostome. La voix de la vérité fut réduite au silence, le mensonge triompha. Théophile trouva la voie toute aplanie, et les circonstances aussi favorables que possible à sa proposition. Il représenta à l'empereur que le concile ne devait pas se tenir à Constantinople. Chrysostome y avait des partisans fanatiques qui, sans doute, s'opposeraient aux décisions du concile si elles leur déplaisaient. Cela pouvait amener du trouble. Lui-même ne pouvait pas répondre des têtes chaudes des matelots d'Alexandrie, qui se trouvaient en grand nombre à Constantinople et tout dévoués à leur patriarche. La résidence impériale devait être à l'abri de tout désordre. Il priait l'empereur de convoquer le concile à Chalcédoine, qui se trouvait sur la côte asiatique du Bosphore, en face de Constantinople. Comme on s'y attendait, Arcadius donna son agrément absolu à cette proposition.